Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Éric Ayer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Jean-Pierre Petit, président des cahiers verts de l'économie. Christian Saint-Etienne, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, membre du cercle des économistes. Bon, évidemment, je reçois des courriers, mais des réactions en direct. Alors, ça y va, hein. Dans les deux sens. Hein. Voilà, on parle beaucoup des retraités, me dit Lionel, mais l'avenir, c'est la jeunesse. Elle souffle, économiquement. À cause du logement, notamment, dit-il. Et chaque fois, il y a des choses vraies. Hein. Je suis retraité, m'écrit Yamanakako. Je touche moins de 50% de mon dernier salaire, ça n'a rien d'extraordinaire, par exemple. Il y a John qui me met, soyons sérieux, la génération 70 est mieux lotie en termes d'accumulation de richesses que la génération actuelle. Jusqu'à quand va-t-on s'étonner en France qu'une personne qui a travaillé 42 ans a un meilleur niveau de vie qu'une personne qui a travaillé 5 ans, par exemple, m'écrit Richard. Christian Saint-Etienne, le parc immo français a pris plus de 400% en moyenne, sans parler des salaires qui augmentaient. Ils doivent participer à l'effort national, les retraités, m'écrit-il. Tout à fait normal d'avoir plus de patrimoine lorsque l'on est senior, écrit Guillaume. Mais soyez honnête, le prix de l'immobilier est depuis 20 ans en forte augmentation quand la masse monétaire a fortement augmenté au détriment des jeunes actifs.
Ça, il faudrait...
Les gens qui ont travaillé depuis les années 80-90 n'ont jamais connu les 35 heures, mais plutôt 45-50 heures, n'avaient rien d'exceptionnel, m'écrit LP pour défendre les retraités. Ah ça, c'est Isabelle qui justement, mais il date d'il y a deux jours. Émission passionnante, dit-elle, à propos de celle du numéro spécial protectionnisme, libre-échange, doctrine européenne qu'on a fait lundi. Il y a du vrai partout, hein.
Non, enfin,
Jean-Pierre, il y a du vrai partout.
Non, mais du vrai, oui, ok. Mais d'abord, il y a une remarque chez un de vos auditeurs qu'il faudrait creuser un petit peu. On prend les 17 millions de retraités, mais oui, les conditions, en termes actualisés, des retraites d'un jeune retraité, par exemple de 64 ou 65 ans, n'ont rien à voir avec celle de quelqu'un qui est parti et il y a 30 ans et qui est encore vivant, hein, puisque ça va de 62 à 110 ans. Et ça n'a rien à voir en termes si tu actualises les données, la cotisation actualisée versus retraite actualisée.
Le retraité de 65 ans, c'est pas comme celui de 80.
Bien plus favorable il y a 30 ans. Ouais. Moi, je me souviens, j'ai travaillé dans le secteur public, je voyais des gens partir à 5 ans. Il n'y a pas si longtemps que ça, partir à moins de 55 ans. Donc ça c'est fini quand même dans l'ensemble. La deuxième chose sur les prix immobiliers. Attention parce que au Cahiers Verts on suit ça de très près, on fait des présentations assez fréquentes sur les perspectives de rentabilité du marché immobilier en particulier résidentiel. Les prix réels, déflatés de l'inflation et déflatés de l'ensemble des coûts d'entretien et de rénovation de l'immobilier. Alors les coûts, il y a les coûts fonciers, il y a les charges de copropriétaire, enfin il y a plein de trucs.
À l'arrivée, ça coûte ça.
À l'arrivée, le prix réel n'augmente beaucoup moins souvent qu'on le beaucoup moins fortement, pardon, qu'on le dit fréquemment.
Ah, le prix réel. Quoi,
c'est ça qui compte.
Oui, mais carré. Soyons plus précis pour les auditeurs. Sur 30 ans, en réel, ça a augmenté de quoi ? 30 à 40%.
Oui, à peine.
Alors qu'en nominal, c'est 200. C'est pas 4 fois, c'est 200.
Oui. À Paris, un peu plus.
Enfin, donc, si on précise pour les auditeurs, ça a doublé en nominal, mais ça n'a augmenté que de 30% en réel.
C'est oui, puis bien pas oublier qu'il y a eu des baisses, hein, quand même, hein, même nominal. Au début des années 80, les prix immobiliers baissaient. Entre 91 et 97,
ça a été un bain de sang.
C'était un bain de sang, notamment en Île-de-France. T'as eu aussi une petite baisse, on l'a déjà oublié, entre 2012 et 2015. Et là, t'as une baisse depuis 2 ans, quoi, à peu près.
Il faut rappeler que sur 50 ans ou 100 ans, seules les actions protègent le pouvoir d'achat.
Oui.
Mais il y a eu aux États-Unis qui a sorti une étude assez passionnante là-dessus. Sur 40 ans, effectivement, il n'y a pas photo, quoi. Le rendement est là et pas.
Mais la taxe inflationniste, il faut quand même la rappeler. Hein.
Alors, allez-y, Eric.
L'inflation
là-dessus
a fortement augmenté, d'accord. Donc, on parle que du pouvoir d'achat en réel. Mais quand vous avez des biens, eh ben, votre niveau, finalement, d'actifs a aussi chuté. Et ça, on le voit on dit bien que l'inflation, quand vous avez du patrimoine, c'est pas bon, d'accord. Et c'est quand vous êtes endetté.
L'euthanasie
bon.
Des rentiers.
Et donc, oui, eh ben, voilà. Donc, pour la dette publique, ça a été très intéressant, part.
Ah, c'est...
Il y a une partie qui s'est dévalorisée et pareil pour les actifs. Et c'est extrêmement important de dire que peut-être, et c'est ça un élément qu'on essaie de dire, pourquoi aujourd'hui la surépargne ne baisse pas, ou ne baisse pas, bah, une raison possible, on n'a pas réussi à le montrer, c'est parce que le patrimoine des actifs, le patrimoine, a fortement chuté à cause de cette taxe inflationniste. Et donc, si vous avez un objectif de patrimoine, d'accord, et ben, puisque votre patrimoine en réel a baissé, j'épargne un peu plus. Bon, c'est un raisonnement un peu compliqué. Est-ce que les épargnants font ce raisonnement-là? Est-ce que leurs conseillers patrimoniaux disent attention, il y a cela? Bah, c'est possible, parce que puisque ce sont plutôt des actifs qui sont aisés, qui ont cette surépargne, c'est eux qui ont aussi qui perdu ce patrimoine. Peut-être que c'est juste la compensation de ça.
Intuitivement, on sait que beaucoup de gens ont plus une réflexion en nominal. Et
c'est vrai. Bon. Donc c'est possible que ça ne soit pas. Et c'est
pour
ça
sur ce point précis.
Mais on ne va pas faire.
On va pas
faire une demi-heure déflatée de l'inflation, si vous voyez ce que je veux dire.
Non, mais sur ce point précis, les gens peuvent avoir un raisonnement réel sans le savoir. C'est-à-dire que si l'objectif des classes moyennes, c'est de se dire je veux à 50 ans avoir 60 mètres carrés dans Paris, il faut un raisonnement réel.
Ah oui.
Et donc à ce moment-là, effectivement, ils sont obligés de surépargner pour arriver aux 60 mètres carrés qu'ils ont en objectif.
Non, mais ça c'est intéressant, c'est une espèce d'effet d'encaisse réelle à la Pigou, mais appliqué à l'ensemble du patrimoine et non pas au.
Un effet de quoi à la Pigou?
L'effet Pigou,
Arthur Pigou.
C'est le fondateur des effets d'encaisse
réelle. L'effet Pigou, c'est la baisse de la valeur réelle des encaisses quand il y a de l'inflation.
Mais ça s'appliquerait à l'ensemble du patrimoine, sachant qu'entre-temps, la taxation foncière a augmenté aussi.
Voilà, en plus, très fortement.
On va tenir compte de cela.
Si vous voulez apprendre à réfléchir réellement, venez sur BFM Business. Vous avez fait partie à une époque du Haut Conseil des Finances Publiques avec d'ailleurs. J'ai eu l'impression qu'on était passé à deux doigts du mot insincérité dans le dernier rapport du Haut Conseil. Ouh là là, c'est. Les mots étaient choisis, je sais que tout est pesé. Le mot insincérité, quand ça sort d'un document de magistrat, ça a un sens juridique et donc c'est une frontière que l'on franchit ou que l'on ne franchit pas. Vous êtes posé au fond de vous la question sans.
Non, mais je pense, et très sincèrement, qu'il faut arrêter d'utiliser ce mot insincère. Vous voyez, on était à deux doigts. Le Haut Conseil était à deux doigts uniquement en disant les perspectives de croissance sont.
Sur les perspectives, c'est vrai. Voilà.
Mais vous vous rendez compte que finalement, ils vont peut-être avoir raison. C'est-à-dire que, alors Christian l'a un peu rappelé, on était très pessimistes.
Ils vont.
Le gouvernement. Le 1% de croissance aujourd'hui est jouable. Alors qu'effectivement, il y a deux, trois mois, on disait que c'était injouable. Nous-mêmes à l'OFCE, on était bien plus bas. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a une révision de la fin d'année 2023. La croissance a été un peu plus élevée. Donc l'acquis de croissance est plus élevé. Et le début d'année, Christian parlait de la deuxième partie, le début d'année, il y a eu plus 0,2. L'INSEE prévoyait 0. Ouais. Quand vous commencez avec un meilleur acquis et 0,2 au premier trimestre, là, d'un coup, le 1%, il est jouable.
Donc, si on fait 0,3, c'est bon.
0,3 chaque trimestre, c'est pas complètement injouable. Alors qu'avant, il fallait faire 0,7 chaque trimestre si l'INSEE avait. Donc, du coup, on est passé de quelque chose de quasi improbable. Alors, c'est pour ça qu'il faut être très
prudent. J'entends d'ici Bruno Le Maire, si vous avez raison, à la fin.
Mais bien entendu, mais il aura
raison.
Non, c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser des mots insincères ou improbables. Vous voyez, on est quand même sur des moments un peu compliqué à analyser. Est-ce que pour autant, là, juste pour revenir sur le débat qui s'est engagé à la fin de la première partie sur est-ce que. Mais Bercy, il travaille très bien, comme il sait travailler très bien. Ensuite, que fait le politique de cette information-là? C'est un peu ça l'idée. Moi, je pense qu'il y a quand même un élément qui, tout de même, tord le cou à des idées. Vous voyez, on a été mal éduqués en 2021-2022. Les recettes étaient gigantesques compte tenu de la croissance. Donc cette élasticité, sans être trop technique, normalement, l'élasticité est unitaire en moyenne entre la croissance et les recettes. Quand la croissance est de 1%, les recettes sont de 1%. Allez, en moyenne. Là, pendant deux ans avant 2023, on avait des élasticités qui montaient à 1,6. C'est-à-dire que quand j'avais 1 de croissance, j'avais plus 1,6 de recettes. Et on disait... on était bien dans trop d'impôts tue l'impôt, parce que dès qu'on baisse l'impôt, vous voyez, hop, ça fait plus de recettes. Vous voyez, en gros, là, c'est juste un rappel. Là, on a fait zéro, on est descendu en dessous de l'unité. C'est normal. En moyenne, ça fait 1. Donc, on s'était habitué à mettre du 1,6, mais 1,6, c'est pas possible. Et donc, on a été extrêmement surpris. Mais en fait, c'était pas si étonnant que ça.
Si on est vraiment un expert à Bercy, on sait votre raisonnement sur l'élasticité, on le connaît.
Oui, on connaît.
On n'est pas surpris
on s'est dit, on va mettre.
Pas rêver, alors,
qu'est-ce qu'a fait Bercy? Mais comme nous, on fait, quand vous savez pas, vous mettez 1.
D'accord.
Puisqu'on était à 1,6 depuis deux ans.
Ils ont fait 1,3.
Mais en fait, ils auraient dû être. La prudence aurait été de dire allez, je continue à faire 1 en moyenne, puisque ça a été nettement au-dessus de 1, je mets un peu en dessous de 1. J'aurais été moins surpris par la chute des recettes, et mon budget aurait été peut-être un peu plus dégradé. Mais c'est là où le Haut Conseil fait son rôle. Le Haut Conseil le disait, j'étais plus là. Oui. Il disait, mais attention, on ne peut pas rester avec des élasticités au-dessus de 1 en moyenne. Faites attention à cela. Donc ça, je pense que c'est le Haut Conseil est dans son rôle. Dans la croissance économique, il faut être extrêmement prudent parce que, même de façon très sincère, on peut se tromper dans un sens comme dans l'autre.
Alors, on verra qui a raison entre Bercy ou alors la Commission des affaires économiques européennes qui a dit qu'on serait plutôt en 2025 à 5, là où Bercy dit 4-1, 0,9 d'écart.
Là, c'est beaucoup. Non, mais alors, oui. Non, mais vous savez pourquoi ? Non, mais là, par contre, on sait pourquoi.
Alors, juste vraiment en
amont. Parce que la Commission, sur l'année N+1, c'est-à-dire 2025, fait à politique inchangée. Mais oui, mais alors que le gouvernement intègre sa politique, c'est-à-dire intègre les 20 milliards. Donc, bien entendu, oui, c'est la commission est toujours comme ça. Jamais faire le 1+1, regarder la commission N+1, parce qu'il ne compte pas la politique économique. Si le gouvernement dit, moi je fais 20 milliards d'économies, vous avez l'écart.
Réaction rapide, après on fait Booba, je vais être sûr d'en parler.
Très court. Actuellement, si vous interviewez les responsables sur la probabilité de la fin de la guerre en Ukraine, il y a 1% des gens qui vont vous dire qu'elle est partie, que ça va arriver, et 90% des gens qui parlent sur la guerre en Ukraine vous disent que ça pourrait durer 3-4 ans. Mais il se passe sans arrêt des choses, y compris sur Kharkiv actuellement. L'offensive russe ne va pas exactement où ça veut aller. Ça commence à avoir des conséquences malgré tout sur la société russe. Bon. Imaginons que vous ayez au mois de juin, notamment en préparation des élections américaines, une initiative américaine vis-à-vis de la Russie, et que tout à coup il y a un vrai cessez-le-feu au 1er juillet, vous pouvez parfaitement avoir une année 2025 de la zone euro à +2, +2,5, qui change totalement la donne. Donc on est toujours dans l'attente des mauvaises nouvelles, mais on ne peut pas exclure qu'il y ait une bonne nouvelle à un moment donné, et ça joue énormément sur le taux d'épargne.
Juste un mot sur la commission dette de Juvin. Là, on en parle ou on n'en parle pas en fait.
Mais attention aux termes qui sont employés, hein, parce que quand j'entends
commission sur la croissance de la dette.
Non, mais je ne parle pas de ça. Je parle de maquillage là.
Ah, le maquillage.
Maquillage, ça peut faire peur au marché, hein. Parce que ça peut rappeler la Grèce. Hein. Attention.
J'ai trouvé ça très borderline.
Oui, moi j'ai dit.
Maquillage, c'est à la limite du.
Non, mais c'est pas maquillé.
C'est une décision du cabinet d'attendre pour voir si ça allait aller mieux ou pas. Oui.
On va faire un peu de réforme de l'assurance chômage. Je voulais quand même qu'on parle de la Booba. On a 13 minutes 50. Alors, on va passer, tiens, un coup de Booba avec vous, Jean-Pierre Petit. Joachim Nagel, dans son rôle de. Dans son rôle de faucon, logique, patron de la Bundesbank, dit « Ne baissons pas les taux trop vite, c'est prendre le risque de tout casser et de mettre en péril le travail accompli. Est-ce qu'il peut y avoir une baisse des taux trop rapide ?» Est-ce que...
C'est pénible d'entendre l'équipe de la Booba, c'est toujours pareil. On croirait que ces types-là qui sont complètement déconnectés à Francfort...
Tu préfères les Néerlandais ?
Non, ils sont aussi pénibles, les Autrichiens aussi.
Qui n'est pas pénible alors ? Non, mais c'est qui les sympas ?
Je l'ai trouvé un peu moins dogmatique quand même, parce que je l'ai lu l'interview là dans Les Échos, je l'ai trouvé un petit peu moins dogmatique que d'habitude. Enfin, on croirait que le problème numéro un de l'Europe, c'est d'arriver à absolument... On a des chocs dans tous les sens, de nature très diverse. Son seul problème, c'est d'arriver à 2%. On y est, d'ailleurs.
L'inflation.
On est à 2,4 dans le dernier chiffre. C'est le meilleur chiffre depuis, je sais, très longtemps. Je crois que c'est février 2022, si je me souviens bien. Le chiffre d'inflation sous-jacente, c'est 2,7. C'est l'un des meilleurs chiffres depuis autour de 2 ans.
Zone euro, ça ?
Oui, c'est zone euro, oui, zone bien euro. Sûr.
Inflation sous-jacente, donc...
Tous les indicateurs...
Vous la déconnectez des éléments volatiles qui sont notamment les prix de l'énergie.
Et tous les indicateurs d'inflation montrent que ça va continuer de diminuer.
Donc il n'y a pas photo, c'est maintenant.
Oui, alors il faut le faire maintenant, mais surtout les chiffres d'inflation sont quand même plutôt bons. L'énergie, là il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre en glissement annuel. L'alimentaire, il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre en glissement annuel.
Et les prix des services, actuellement.
Les biens manufacturés, il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre. Il reste les services. Ça augmente encore pas mal. Et c'est 45% à peu près de l'indice européen. Mais grâce aux effets de base, ça va diminuer. D'ailleurs, la dernière fois, là, dans le dernier chiffre, c'est passé sous les 4%. Donc même dans les services, ça va diminuer. Pourquoi ça va diminuer ? Parce que, regardez les chiffres, les enquêtes de la BCE, notamment sur les anticipations d'inflation.
elle diminue assez considérablement. Le marché de l'emploi est quand même moins dynamique qu'avant. On voit bien, les marges baissent, donc forcément, il va y avoir des gains de productivité qui vont être créés par de moindres recrutements, voire même dans un certain nombre d'industries, par des licenciements, même si c'est modéré. Donc il va y avoir des ajustements, parce que les coûts unitaires de salariés aujourd'hui sont à 5 en Europe. En zone euro, ils sont c'est-à-dire le double de celui des États-Unis, grâce en grande partie aux gains de productivité aux États-Unis. Donc ça va s'ajuster à la baisse, forcément. D'ailleurs, les chiffres d'emploi le montrent. Et nous, sur nos salaires, on est à la fin de l'année dernière, on était à 5% d'augmentation des salaires moyens en zone euro. Là, on va aller vers 3,5% en fin d'année. Avec quelques gains de productivité, tu vas retomber à 2,5%. Et on sera, sur l'indice des prix à la consommation, je pense qu'on sera à peine au-dessus de 2 à la fin de l'année. Hein.
Bon, ça veut dire que c'est le moment de baisser les taux.
Oui, il faut baisser ses taux.
On fait 25 points en juin.
Il faut continuer.
Où on passe.
Alors, il y a juste un point.
Alors, un point, mais parce que là, la photographie était assez...
C'est technique, mais...
Mais c'est toujours technique.
La BCE a trois taux. Hein,
oui.
Il y a le taux de dépôt, le taux refi et le taux marginal. Ce que je pense, c'est que sur le taux de dépôt, qui est à 4...
Le taux pratiqué aux banques, hein,
lui, il pourrait baisser d'un point, carrément, d'un seul coup.
100 points de base?
Oui.
Waouh.
Non, c'est l'argent auquel...
Oui.
C'est le taux auquel on rémunère les banques.
Oui, c'est le taux auquel on rémunère les banques.
Ben, je pense qu'il faut le baisser de 4 D'accord. à 3 et faire 25 centimes sur le refi. Et ça enverrait un signal extrêmement positif sans avoir à toucher le taux marginal qui est le taux de refinancement des banques quand elles ont besoin d'argent. Et voilà, le taux de refinancement, c'est le taux central de la banque centrale, mais c'est le taux de dépôt qu'il faut baisser d'un point. Alors, pourquoi d'ailleurs les Allemands, il faut le dire, il y a un calcul sous-jacent, c'est eux qui prêtent au reste de l'Europe. Donc quand ils disent « je ne veux pas baisser les taux », c'est notamment le taux de dépôt. C'est ce taux de dépôt, d'ailleurs, qui fout en l'air les banques centrales, c'est ça qui cause leur déficit, ce qui fait que les États pourraient être amenés à renflouer les banques centrales. Donc, il y a une urgence à baisser le taux de dépôt en le déconnectant du refi.
D'accord. C'est un aspect effectivement très technique du sujet, mais fondamental. Bon, après, certains vous opposeront le fait qu'on a des banques qui sont finalement relativement faibles par rapport à leur
concurrence. Non, mais enfin, Jean-Pierre vient de rappeler que l'inflation est à 2,5%. Un taux de dépôt qui descend.
Non, mais je suis d'accord.
Non, mais pour finir, si vous voulez en plus aider les finances publiques, il faut le faire. Voyez, une partie.
Baisser
les taux. Voyez, une partie de la difficulté, on dit qu'on paye beaucoup d'intérêts, vous voyez, c'est une dépense publique. Ah, c'est quand vous augmentez les taux à court terme, les taux à long terme aussi augmentent. Ça rend aussi aux États une plus grande difficulté. Ça, c'est quand même le premier point. Et le deuxième point, aujourd'hui, on a quand même des gros problèmes en Europe sur le côté immobilier. Baisser les taux, ça va quand même bien intéresser ce secteur-là. Ça va permettre de relancer aussi un peu l'activité. La hausse des taux en Europe, compte tenu du problème qui était un problème d'offre et pas un problème de demande, n'était pas adapté. Donc je pense qu'on est allé trop loin dans la hausse des taux. Donc même une baisse aujourd'hui, c'est pour revenir à des taux un peu plus normaux.
Rappelons les erreurs du début de la décennie 2010, où la politique monétaire de Trichet est excessivement restrictive.
Vous pensez à 2011, il monte les taux
juste avant la crise. Et finalement, on a mis 10 ans. Il a fallu d'ailleurs Covid pour qu'on sorte de la trappe déflationniste dans laquelle on était. On n'arrivait pas, rappelez-vous, juste avant Covid, on n'arrivait pas à refaire monter le taux d'inflation au-dessus de 2 malgré des taux négatifs, malgré le quantitative easing. Et les gens qui disent à longueur de temps, là, ici ou ailleurs, que l'inflation va être plus élevée, moi je demande à voir, hein. Faut pas oublier le monde pré-Covid. Hein. On l'a pas complètement.
Et puis surtout avec les Chinois qui déversent massivement leurs marchandises, les prix des produits industriels ne vont pas monter. Non, moi je voulais juste. Il y a une intervention d'un auditeur sur les jeunes et je rebondis sur ce qu'avait dit Eric. C'est clair qu'on a besoin d'un plan d'ensemble en réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il faut faire une sous-indexation partielle mais très limitée, du genre -1% par rapport au prix, mais que parallèlement, il est exact qu'il y a un gros déficit de logement pour les jeunes actifs. Et moi, je suis favorable à un plan de construction aidé par la puissance publique, de logements de 30 mètres carrés, et je pense qu'il faut en faire 200 000 par an pendant 5 ans pour aider les jeunes actifs. Ça serait un élément central de leur insertion sur le marché du travail. Et il faut avoir à la fois, quand vous voulez, c'est comme la conduite en rallye, hein, il faut jouer du frein et de l'accélérateur. Donc il faut freiner un peu la dépense publique de qui est fonctionnel,
oui, mais et en même temps accélérer sur l'investissement. C'est dépenses publiques fonctionnelles, mais dépenses publiques fonctionnelles. Vous prenez la dépense de l'État, la crise Saint-Étienne, elle n'est pas plus élevée chez nous qu'ailleurs. C'est sur le social, et qu'est-ce qui est fonctionnel, pas fonctionnel, sur quoi?
Justement, c'est pour ça qu'on dit sous-indexation partielle des prestations sociales.
Une remise à plat de tous les sujets liés à la politique du logement, ça coûte de l'argent quand même à un moment. Si vous voulez à nouveau aider la demande, si vous voulez baisser la fiscalité des propriétaires...
Pareil, je ne parle pas d'un mécanisme fiscal. Je parle jouer de la Caisse des dépôts et des grands constructeurs et leur dire... Et d'ailleurs, le point central aujourd'hui, c'est de leur donner des terrains où construire.
Non, c'est absolument. Et alors, ça suppose peut-être de revenir en arrière sur certaines contraintes vertes qui ont été inscrites, comme le ZAN, par exemple.
Ben voilà, exactement.
Jean-Pierre, on parle de la réforme de l'assurance.
Tu viens de faire une remarque qui est intéressante. Tu dis, bon, par rapport à l'étranger, ce qui nous différencie beaucoup, c'est les dépenses sociales et le reste, on est à peu près
comparable. La dépense de l'État est à peu près comparable.
De toute façon, on peut avoir le choix collectif en France d'avoir plus de dépenses pour les retraites, pour la maladie, etc. Le sujet que, de toute façon, tu peux avoir, si l'objectif forcé ou vraiment issu de la volonté politique primaire, c'est de baisser les dépenses non sociales, on peut le faire aussi, parce que tu ne me diras pas qu'on n'a pas des marges de productivité dans le secteur public, quand même.
Un taux d'absentéisme de 8 à 9.
Voilà, ou dans les dépenses des collectivités territoriales qui ont explosé depuis 40 ans. Voilà, on peut très bien faire un effort là-dessus sans toucher au social.
Oui. D'ailleurs, quand on parle d'un plan de désindexation...
C'est un peu plus dur.
Sur un plan de désindexation raisonnable sur 3 ans, où tu fais moins 1% sur les prestations sociales, il faut faire moins 1% sur la dotation globale de financement des collectivités locales pour les forcer à faire des ajustements.
Ils n'arrêtent pas de tirer la langue et de dire qu'ils sont à l'os sur les collectivités.
C'est faux. Quand on se balade sur le territoire, le nombre les investissements des collectivités locales sont considérables.
Mais vous voyez, par exemple, Solaire, je garde au moins 3 minutes pour l'assurance chômage. Romain Rivaton, qui est quand même un vrai expert des sujets de logement, il explique que la grave erreur de la fin de la taxe d'habitation a mis exsangue les collectivités locales pour pouvoir construire.
Ça, je pense que la taxe d'habitation...
Elle va revenir.
La suppression...
Deux fois en une semaine.
Non, attention, il y avait un objet politique. Le jour où Macron a annoncé la suppression de la taxe d'habitation, je suivais ça à l'heure près, il a gagné 3 points dans les sondages.
Mais c'est toujours une mesure fiscale qui fait qu'on bondit dans les sondages. Le jour où Hollande dit « je vais mettre la taxe à 75%, bingo !»
Voilà, il prend 3 pour 1.
Il était en train de se faire rattraper un peu par Mélenchon qui disait au-delà de 400 000, je prends tout, je crois, je ne sais plus, 350 000.
Il prend pas mal, lui, de toute façon.
Et paf, taxe 75%, et il monte dans les sondages. La réforme de l'assurance chômage, Éric Ayer. Le gouvernement est décidé à passer par décret, le groupe Lyot devait essayer de s'y opposer. On a décrypté ça plusieurs fois déjà dans l'émission, on voit bien qu'il y a un aspect espoir de retour à l'emploi et un aspect économie. Et les arguments de ceux qui disent oui, il faut la faire, c'est tendu sur le marché de l'emploi, même si on rogne un peu, on restera largement plus confortable que les autres pays. Et d'autres qui disent non, là, vous allez pénaliser les plus fragiles. Et puis, on fait pas ça à un moment où, malgré tout, le taux de chômage est en train de repartir à la hausse. Et voilà, on en est là. Et on n'a toujours pas les arbitrages finaux, mais on voit à peu près à quoi ça ressemble.
Oui, enfin,
faut y aller, il faut pas y aller.
Non, moi je pense qu'il faut pas le faire. Bon, pourquoi? Parce que d'abord, on a quand même fait 3 réformes, me semble-t-il. Il y a eu quand même 5 grosses mesures de réforme de l'assurance chômage depuis 2010. Attendons déjà de comprendre comment ces réformes ont influencé finalement l'incitation à la reprise d'emploi, quel type d'emploi. Voyez, on aimerait bien avoir un peu de temps.
Voyez, il y a des choses déjà visibles.
Hein. Alors, des
passage de 4 à 6 mois de durée de travail effectué pour accéder. A déjà été vu dans la durée des contrats qui ont été accordés par la suite.
Ok, j'aimerais savoir entre nous, dans la reprise d'emploi, qu'est-ce qui est lié à ce phénomène-là, qu'est-ce qui est lié... Voyez, depuis 2017, on a des difficultés de recrutement record. Et on battait record sur record, même si maintenant ça a quand même bien baissé. Et on est bien en dessous de quasiment tous les pays européens. On est en dessous de l'Allemagne, en dessous de l'Espagne, vous voyez, en termes de difficultés de recrutement, d'après Eurostat, des États-Unis, etc. Quand vous avez des difficultés de recrutement, ouais, habituellement, dans le passé, difficultés de recrutement, on voyait un trimestre plus tard les salaires réels augmenter et 3 trimestres plus tard la productivité augmenter. Il y avait ces phénomènes-là. Donc plus de productivité et des salaires réels quand il y avait des difficultés de recrutement. Là, on a des difficultés de recrutement depuis 5 ans et on a tout l'inverse. On a des salaires réels négatifs et on a une productivité qui s'est effondré. D'accord ? Donc, vous voyez, ceux qui vous prennent des études du passé pour dire ça a marché et on doit l'appliquer, on va dire on n'est plus dans le même monde. Aujourd'hui, ce qu'on n'arrive pas à expliquer en France, c'est pas où sont les salariés, c'est pourquoi on en a embauché autant compte tenu du peu de croissance. D'accord ? Donc, c'est les pertes de productivité. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je pense pas que les. Et c'est ça les difficultés de recrutement, c'est que tout le monde recrute à tour de bras, alors qu'il n'y a pas de croissance économique. Ah, quand tout le monde recrute, ah, c'est plus difficile pour recruter. Et donc, le problème, vous voyez, les taux d'emploi n'ont jamais été si élevés.
Oui,
donc, pensez qu'aujourd'hui, c'est les chômeurs qui ne veulent pas travailler, qui fait que globalement, on n'arrive pas à repartir. Non, c'est se tromper. Les difficultés de recrutement sont bien supérieures ailleurs. Encore une fois, regardons les études d'Eurostat. Eurostat vous dit que les difficultés de recrutement sont supérieures dans tous les pays, à part l'Italie. D'accord ? Donc, je pense qu'on se trompe en faisant cela. Je pense que c'est une façon de faire des économies et de rassurer les marchés, et notamment Standard & Poor's, parce que quand vous faites ça, vous engagez des économies, c'est certain.
Oui, c'est
d'accord
ça.
Qu'il n'y aura pas de manifestation parce que les chômeurs ne vont pas dans la rue et on ne soutient pas les chômeurs. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on enlève des droits aux salariés. Et ça, je ne crois pas que ça soit le bon moment de le faire.
Alors, je suis en désaccord.
D'abord, vous avez 45 secondes pour dire un désaccord, mais pas plus.
Alors, le désaccord, il est très précis. C'est sur le nombre de mois pendant lesquels on doit avoir travaillé pour avoir des droits. Actuellement, on est passé
24...
de 4 à 6 mois.
Oui, de 4 à 6 sur les 24 mois.
En Allemagne, c'est un an. Et je pense qu'il faut passer à 8 mois pour une raison simple. C'est les arbitrages infra-annuels sur chômage-activité, c'est-à-dire les gens qui bossent 6 mois pour toucher 6 mois de chômage.
Il faut au-delà des 6.
Et donc, le fait de passer de 6 à... Vous avez évoqué le fait que de 4 à 6 mois, ça a déjà changé les contrats de travail. Mais ce qui sera encore plus significatif, c'est de passer de 6 à 8.
Il y a deux pistes. Hein. Certains qui disent que ça va être 9 mois sur les 24 derniers ou 8 mois sur les 20 derniers mois.
Mais vous ne pensez pas que l'augmentation... Ouais, est-ce que l'économiste est capable de contrôler tout et de dire si on est passé de 4 à 6, c'est grâce à la réforme? Mais non, il y a des difficultés de recrutement. Il est normal que la qualité de l'emploi s'améliore et que la durée augmente. Est-ce qu'on arrive à contrôler ça? Non. Donc dire avec certitude c'est la réforme qui a permis de passer de 4 à 6, c'est tromper les gens.
Merci Eric Ayer d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Jean-Pierre Petit, Christian Saint-Etienne, on se retrouve demain à 9h, jour du Cercle des économistes.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.
Nerds. Today's episode is sponsored by NerdWallet's Smart Money Podcast. Ready to expand your financial game? NerdWallet can coach you on smart strategies like choosing investments, finding your next credit card, and setting a budget that works for you. Score major points towards your summer vacation by learning expert tips for choosing a high-yield savings account and how to build wealth by investing in index funds. Slide into summer with smarter decisions in 2024. Follow NerdWallet's Smart Money Podcast on your favorite podcast app. Future you will thank you.